Voilà. Ben, j'ai peur de vous choquer cet après-midi. J'ai un peu peur de vous choquer. J'ai peur de vous choquer parce que le texte qu'on va étudier ce soir est susceptible de prendre plusieurs d'entre vous à rebrousse-poil. Alors, petite question diagnostique avant de commencer. Que pensez-vous de l'affirmation suivante? Les pasteurs qui ne croient pas que Jésus soit né d'une vierge devraient être dénoncés en public et licenciés sans ménagement par leurs églises. Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Bon, si cette affirmation ne vous dérange pas trop, qu'en est-il de la suivante? Un chrétien qui ne voit pas d'inconvénient à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage devrait être livré au diable. Plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord? Permettez-moi de suggérer que si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ces deux affirmations, je vous préviens que ce message risque de vous contrarier ce soir. Voire peut-être, je l'espère pas, hein, mais voire peut-être de vous mettre en colère. Je préfère vous le dire tout de suite, ces affirmations que je viens de vous livrer me semblent être le genre de conclusion que nous sommes censés tirer du passage que nous sommes sur le point d'étudier. Vous allez voir en effet le genre de langage que l'apôtre Paul lui-même va employer pour sensibiliser ses lecteurs à ce que j'ai appelé la gravité du christianisme. La gravité du christianisme. Et oui, à l'époque de Paul, comme à la nôtre d'ailleurs, il y avait des gens qui abusaient du christianisme. Vous voyez, qui abusaient du christianisme. C'est-à-dire des gens qui prenaient l'étiquette disciple de Jésus, d'accord? Et qui mettaient ensuite n'importe quoi derrière. Comme si cette expression pouvait admettre une grande variété de croyances et de comportements. Alors que pas du tout. Si vous vous souvenez du premier message, dans cette série sur la première épître de Paul à Timothée, le premier message, nous avions vu dans les tout premiers versets de cette épître que la foi chrétienne, en fait, est strictement réglementée. La foi chrétienne est strictement réglementée. C'était la leçon qu'on avait tirée des tout premiers versets de ce livre. L'adjectif chrétien, chrétien, n'est pas censé désigner une large catégorie religio-culturelle molle et pluraliste. Au contraire, on va le voir ce soir, face à des gens qui se disent chrétiens et qui voudraient se permettre quelques libertés doctrinales ou morales, Paul va adresser un message tout simple à Timothée. Et comme on l'a vu déjà depuis le début de notre étude de ce livre, quand Paul écrit à Timothée, il s'attend à ce que ce qu'il lui écrit soit lu en public. Donc c'est pas juste à Timothée qu'il adresse une leçon, c'est aussi à tous les chrétiens de son église, l'église d'Éphèse. Et puis, par leur intermédiaire, c'est aussi à nous que Paul veut adresser un message. Ce message tout simple, c'est le suivant. Être un chrétien, c'est plus sérieux qu'on le pense. Être un chrétien, c'est plus sérieux qu'on le pense. Être un chrétien, c'est peut-être plus sérieux que ce que vous croyez en ce moment même. Et si c'est le cas, j'espère qu'avant la fin de cette prédication, Dieu vous aura montré combien la foi chrétienne, c'est quelque chose à ne surtout pas prendre à la légère. C'est quelque chose de grave, la foi chrétienne. Alors lisons le texte. Première épître de Paul à Timothée. Je vous avais prévenu qu'on allait l'étudier en petits segments, pas des passages très très longs ici. Ce soir, nous allons lire trois versets, les versets 18, 19 et 20. C'est la fin du premier chapitre. Nous lisons la parole inspirée de Dieu. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Nous arrêtons notre lecture ici, je vous invite à la prière. C'est vrai, Seigneur, que parfois nous ne mesurons pas toute la portée du langage qui est employé dans la Bible, dans ta parole. Aide-nous ce soir, s'il te plaît, à voir tout ce que tu veux nous dire, parfois des choses contrariantes, en effet, mais Seigneur, tout ce que tu veux nous dire et tout ce que tu vas accomplir dans notre vie, c'est pour notre bien. Alors, sous l'action de ton esprit, nous prions maintenant que tu nous rendes disponibles à tout ce que tu veux nous dire et faire en nous. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Être un chrétien, c'est plus sérieux qu'on le pense, tout d'abord parce que le christianisme, c'est quelque chose de conflictuel. C'est quelque chose de conflictuel. Tiens, tiens. Au verset 18, on voit que Paul veut conforter Timothée dans sa vocation en tant que pasteur et en tant que responsable, précisément dans l'église naissante d'Éphèse. Parce que Paul sait que Timothée est en train de faire face à une certaine opposition. Il sait que Timothée, ce jeune pasteur, est en train de faire face à une certaine opposition. Paul veut donc l'encourager personnellement, mais il veut aussi conforter publiquement le rôle de Timothée en tant qu'enseignant et pasteur dans cette église. Paul rappelle donc, dans ce texte, que Timothée est son digne représentant. Vous vous souvenez, quand on avait vu cette expression, il parle de Timothée en disant « mon enfant ». Au début de l'épître, il l'appelle « mon enfant légitime en la foi ». On voit que pour Paul, Timothée, c'est bien son digne successeur, pour ainsi dire, son digne représentant en ce qui concerne la foi et l'enseignement au sujet de la foi. Donc, il rappelle que Timothée est son digne représentant, et puis il rappelle également que Timothée a été appelé à ce travail de pasteur par Dieu lui-même, puisqu'il évoque certaines prophéties qui apparemment ont été faites à cette époque-là au sujet de Timothée concernant son travail de pasteur, l'appel à exercer ce ministère de pasteur dans l'église d'Éphèse. Paul, donc, il invite par conséquent Timothée à s'appuyer sur cet appel qu'il a reçu, qu'il a entendu lui-même, ces prophéties qu'il a entendues à son sujet, pour poursuivre son travail et persévérer à la manière d'un combattant. Vous avez remarqué le langage qui est employé. Il faut que tu combattes le bon combat. En utilisant ce genre de langage, Paul est en train de rappeler à tout son auditoire, Timothée, les chrétiens d'Éphèse et nous, ce soir, que le christianisme, c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau, le christianisme. C'est quelque chose de conflictuel. Et il faut en avoir conscience. C'est un genre de combat. Et il faut en avoir conscience. Paul utilise exprès un langage militaire pour montrer le genre de rigueur et de discipline qui est censé caractériser le christianisme. C'est clair qu'on n'a pas l'habitude, n'est-ce pas, d'y penser en ces termes. On n'a pas l'habitude d'entendre à la radio des gens parler du christianisme en étant quelque chose caractérisé par la rigueur et la discipline à l'image de l'armée, d'accord, des combats armés ou des militaires. Et pourtant, c'est en ces termes que Paul y pense. Rappelez-vous ce passage fameux dans l'Épître aux Éphésiens, tiens, tiens, où Paul parle des armes du chrétien. Prenez toutes les armes de Dieu, dit-il. Les armes du chrétien. Tiens, c'est comme ça que Paul pense au christianisme. Pour nous aider à comprendre ce que ça veut dire, je vais vous lire un extrait du décret du 15 juillet 2005. Le décret du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire, article 8, d'accord, intitulé « Devoir des responsabilités du militaire au combat ». Ces règles, c'est pas dans la Bible, hein, mais c'est ce décret, ces règles ont été décrétées par Jacques Chirac en 2005, il n'y a pas si longtemps, et elles sont en vigueur pour l'armée française. Si vous êtes français, un jour vous êtes appelé, voilà à quoi vous devrez vous soumettre. Seulement, je vais adapter un peu le vocabulaire, d'accord. Je vais remplacer « militaire » par « chrétien ». Je vais remplacer « chef » par « pasteur » et « ancien », d'accord. Je vais remplacer « l'ennemi » par « le mensonge et le mal », et je vais remplacer le fait d'être fait prisonnier par « chuter », tout simplement, d'accord. Vous êtes prêts? Décret, donc, du 15 juillet 2005, relatif à la discipline générale militaire. L'efficacité au combat exige que chaque chrétien participe à l'action contre le mensonge et le mal avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue. Le pasteur et les anciens conduisent la lutte et poursuivent le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous leurs moyens. Ils stimulent la volonté de combattre et maintiennent en toutes circonstances l'ordre et la discipline. Le chrétien, seul ou comme membre d'une formation ou d'un équipage, met tout en œuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné. En aucun cas, il ne doit se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre. Lorsqu'il chute, tout chrétien reste un disciple de Jésus dont le devoir est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat. Fermez les guillemets. Jacques Chirac a donc estimé, avec un vocabulaire un peu différent bien sûr, a estimé nécessaire de décréter ce genre de discipline militaire étant donné les enjeux des conflits armés. Le sérieux de la situation, vous voyez, exige une certaine discipline et une certaine rigueur en ce qui concerne les militaires. Mais en ce qui concerne les chrétiens, quant à nous, est-ce qu'on n'a pas tendance à sous-estimer justement la dimension conflictuelle de la foi, donc le sérieux du christianisme, donc la discipline et la rigueur de la vocation chrétienne? C'est pour cette raison, c'est parce qu'on a tendance à sous-estimer tout ça qu'il y a des gens qui ont vite fait de critiquer les pasteurs qui leur paraissent un peu trop virulents, un peu trop intransigeants ou un peu trop rétrogrades sur certains sujets comme l'autorité objective de la Bible, comme la naissance virginale de Jésus, comme sa résurrection physique d'entre les morts, comme le caractère réel de l'enfer, comme la nécessité de la foi personnelle en Jésus, ou sur des sujets plus des sujets de société comme le mariage, l'homosexualité, l'avortement et ainsi de suite. Alors qu'en fait, les pasteurs qui tiennent de tels discours, qui semblent intransigeants, virulents ou rétrogrades, ce sont peut-être tout simplement des pasteurs et des enseignants qui mesurent le sérieux de leur appel et les enjeux de leur vocation. Ce sont peut-être ceux-là précisément qui font du bon travail. Être un chrétien, vous voyez, c'est plus sérieux qu'on le pense, parce que le christianisme, c'est quelque chose de conflictuel. Dans un premier temps, vous voyez, ce texte nous invite à prendre conscience qu'il y a une dimension antagoniste à la foi chrétienne. Un christianisme qui ne rend personne mécontent, c'est un christianisme qui a un problème quelque part. Un christianisme consensuel, ce n'est certainement pas le christianisme de l'apôtre Paul. À quoi ressemble votre christianisme ce soir? Ou l'idée que vous vous faites du christianisme, à quoi ressemble-t-elle? Est-ce que c'est un christianisme confortable? Ou bien est-ce que c'est un christianisme qui vous place sous les feux de l'adversaire? Mais la question qui se pose maintenant, c'est la suivante, et vous vous la posez peut-être. En quoi est-ce qu'il consiste ce fameux combat? En quoi est-ce qu'il consiste? Eh bien, c'est mon deuxième point. Être un chrétien, c'est plus sérieux qu'on le pense. Deuxièmement, parce que le christianisme, c'est quelque chose de strict. C'est quelque chose de strict. Au verset 19, Paul montre à Timothée ce que ça veut dire que de combattre le bon combat. Et il dit que ça consiste notamment à garder la foi, dit-il, d'une part, et à garder une bonne conscience, dit-il également, d'autre part. Ce que Paul veut dire ici, semble-t-il, c'est qu'il y a deux choses qui sont extrêmement importantes à maintenir dans le christianisme. C'est la bonne doctrine et la bonne conduite. La bonne doctrine et la bonne conduite, pour ceux qui sont intelligents. L'orthodoxie et l'orthopraxie, si vous avez fait du grec. Hein. L'orthodoxie, l'orthopraxie, il faut noter ces mots dans vos calepins. Le bien croire et le bien faire. Deux choses qu'il faut maintenir dans le christianisme. Voilà pour Paul quels sont les enjeux si importants de ce combat, de ce bon combat. Paul ajoute l'exemple de certaines personnes ensuite qui, dit-il, ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. C'est-à-dire des gens qui, pour Paul, sont tombés dans l'erreur. Et il précise, verset 19, que cela est dû, au départ, au fait qu'ils ont perdu leur bonne conscience. C'est-à-dire à un certain laxisme moral. Il y a donc un rapport pour Paul entre l'intégrité morale et la pureté de la doctrine. Entre l'intégrité morale, l'orthopraxie, et la pureté de la doctrine, l'orthodoxie. Laissez-vous aller à un comportement répréhensible et bientôt, c'est votre théologie qui en pâtit. Tout cela pour dire que le christianisme de Paul est strictement défini aussi bien en termes de doctrine que de mœurs. Le christianisme, c'est quelque chose de strict. On ne croit pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Par conséquent, le combat du christianisme est un combat contre le mensonge et contre le mal dans nos vies. Réfléchissons un instant à la métaphore que Paul emploie ici. Il compare le chemin de la foi à un voyage en mer, ce qui dit que certains ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Quand vous monter dans un bateau, c'est normalement pour vous rendre à une destination précise. En tout cas, à cette époque-là, les croisières pour le plaisir, ça n'existait pas trop. Quand on montait dans un bateau, c'était pour se rendre à une destination précise. Et puis, avant et pendant le voyage en bateau, la navigation consiste à déterminer le meilleur itinéraire possible pour arriver à destination tout en évitant les dangers de la météo et des reliefs marins. D'accord pour l'instant. Le comportement du capitaine pendant le voyage est donc conditionné par une conviction intellectuelle concernant la destination visée. Il a regardé ses cartes, utilisé ses outils, ses instruments pour déterminer le meilleur chemin possible pour arriver à destination tout en évitant les dangers. Au départ, c'est intellectuel, de la doctrine pour ainsi dire. Mais ensuite, il va la mettre en pratique sur le terrain, dans les eaux, sur la mer, dans la mer. Et maintenant, imaginez que le capitaine, en cours de voyage, multiplie les erreurs de navigation et qu'il fasse quelques écarts parce qu'il est attiré par les chants des sirènes, vous savez, comme Ulysse dans l'Odyssée. Les chances d'arriver à bon port ne sont-elles pas alors largement hypothéquées? Il y a quelques mois, un livre est sorti qui a été écrit par la petite fille du second officier du Titanic. Il y a quelques mois, là, c'était vraiment très, très récent. Vous en avez peut-être entendu parler. Dans ce livre, elle prétend que le naufrage du célèbre paquebot est dû avant tout à une erreur de barre du timonier, celui qui tourne le volant, pour ainsi dire. Et ensuite, pas seulement ça, mais ensuite, il est venu s'ajouter une mauvaise décision des officiers supérieurs qui ont décidé dans un premier temps de continuer le voyage malgré les dommages à la coque du navire. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Pour la petite fille du second officier du Titanic, le naufrage est dû à des erreurs humaines. Paul est en train de dire ici qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'arrivent pas à bon port parce qu'ils multiplient les erreurs de navigation. C'est ça qu'il dit. Et ces erreurs de navigation qui hypothèquent leur voyage tout entier consistent, pour Paul, à dériver moralement avant tout. Au niveau des mœurs, au niveau de la conduite, au niveau du comportement, au niveau de l'orthopraxie, de la pratique. Le chant des sirènes ne vous a-t-il jamais paru si attirant à vous que vous en avez souhaité parfois revoir votre itinéraire en tant que chrétien? Les chansons préférées des sirènes aujourd'hui ont pour titre, par exemple, le relativisme moral. Personne ne peut me dire ce qui est vrai ou faux, bon ou mal. Elles ont pour titre, par exemple, la libération des mœurs. Ça fait du mal à personne si on se fait plaisir. Elles ont pour titre la haute critique textuelle. Ah, mais vous comprenez, les livres de la Bible ont été écrits très très tardivement par des gens qui ont voulu manipuler le peuple. Les chants des sirènes ont pour titre, par exemple, encore l'épanouissement personnel. Vous comprenez, ce qui est important, c'est de tirer le maximum de cette vie avant qu'il ne soit trop tard, etc., etc. C'est en cédant à de tels chants de sirènes qu'on se retrouve à réviser, voire à remplacer les fondements mêmes, en fin de compte, les fondements mêmes de la foi chrétienne, à savoir, par exemple, l'autorité objective et infaillible de la Bible en matière de foi et de vie, ou encore l'historicité du Jésus des Évangiles, sa naissance virginale, sa mort à la croix, sa résurrection physique et son retour futur dans l'histoire, ou encore l'allégeance que tout être humain doit à Jésus, quelle que soit son origine ethnique ou sa religion. On se retrouve à remplacer d'autres fondements, comme par exemple le pardon des péchés et l'assurance de la vie éternelle, qui sont réellement promis à tous ceux qui se confient en Jésus et en nul autre. Être un chrétien, c'est plus sérieux qu'on le pense, parce que le christianisme, c'est quelque chose non seulement de conflictuel, on l'a vu dans le premier point, mais c'est aussi quelque chose de strict. C'est strict. C'est strictement réglementé. C'est précis. Et c'est ici, de la part de Paul, dans ce texte, un appel pour nous à la vigilance. On doit veiller sur ce qu'on fait et sur ce qu'on croit. On doit veiller sur ce qu'on fait et sur ce qu'on croit, si on se dit chrétien. Est-ce que le mot hérésie fait partie de votre vocabulaire? parce qu'il devrait en faire partie de votre vocabulaire. Ce n'est pas un mot très à la mode, le mot hérésie, mais il devrait faire partie de votre vocabulaire en tant que chrétien. Le christianisme n'admet pas n'importe quelle croyance, ni n'importe quel comportement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci: « Nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. » Oui, la vigilance. Et un peu plus loin, dans la même Épître, « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Et Paul lui-même écrit aux Corinthiens, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber, qu'il prenne garde, vigilance. Le christianisme est strict parce que les enjeux du message sont importants. Il s'agit du pardon des péchés de tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Il s'agit de leur réconciliation avec Dieu, vous vous rendez compte des enjeux? Il s'agit de l'assurance de passer l'éternité au paradis plutôt qu'en enfer. Oui, il vaut mieux pas se tromper de route. Les enjeux sont importants. Et c'est pour cette raison que le christianisme est non seulement conflictuel, premier point, strict, deuxième point, mais il est aussi exigeant, troisième point. Être un chrétien, c'est plus sérieux qu'on le pense, troisièmement et dernièrement, parce que le christianisme, c'est quelque chose d'exigeant. Ce n'est pas exigeant au sens de ce qu'il faut faire pour devenir un chrétien. Mais c'est exigeant au sens de ce que la foi chrétienne est censée produire dans la vie des croyants. Au verset 20 de ce passage, Paul parle de deux personnes en particulier. Vous avez vu, Hyménée et Alexandre, mon homonyme. Ah, j'y peux rien, c'est pas moi qui ai choisi mon prénom. Des gens, dit-il, qui ont fait profession de foi chrétienne, semble-t-il, hein, mais qui ont dévié moralement et par conséquent qui se sont fourvoyés doctrinalement. Ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Ils sont devenus, pour ainsi dire, hérétiques. Voilà, Hyménée et Alexandre, pour Paul, ce sont des hérétiques. Ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Ils se sont écartés de la pure doctrine. Et pour Paul, la contradiction entre leur profession de foi d'une part et leur comportement ainsi que leur enseignement d'autre part est équivalente à un blasphème. Vous avez vu les termes qu'il emploie, j'invente rien, hein, c'est dans le texte. Comment en effet peut-on se dire chrétien et avoir en même temps une vie et un témoignage qui contredisent la piété sans que cela porte atteinte à l'honneur même de Jésus-Christ? Expliquez-moi comment c'est possible. Pas possible. C'est pour ça que pour Paul, c'est un blasphème. Paul déclare donc publiquement, rappelez-vous, c'est une lettre publique, d'ailleurs elle a été léguée à la postérité, des millions de chrétiens la lisent depuis cette époque. Paul déclare publiquement qu'il a livré Hyménée et Alexandre à Satan. Ce langage est plutôt virulent, non? Mais ce que Paul veut dire, c'est qu'il a exclu Hyménée et Alexandre de la communauté des chrétiens. Ils ont été radiés de l'Église, pour ainsi dire, afin qu'on ne puisse plus les considérer comme des chrétiens et qu'ainsi, le nom de Jésus ne soit plus diffamé. Mais cette démarche, vous l'avez peut-être remarqué, n'est pas pour autant un jugement définitif concernant la condition spirituelle de ces deux hommes. Le but de cette exclusion est aussi pédagogique. Vous voyez ce que Paul dit? Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul aimerait que ces deux personnes en viennent à se repentir et à réintégrer l'Église. On appelle ça, dans nos milieux, on appelle ça l'excommunication. L'excommunication. Ou l'exercice de la discipline ecclésiale. Selon Paul, les églises locales, comme la nôtre par exemple, comme celle d'Éphèse, sont appelées parfois à excommunier des gens lorsque leur comportement contredit obstinément leur profession de foi. Ce n'est pas une mince affaire d'en arriver à exclure publiquement quelqu'un d'une assemblée chrétienne. Ce n'est pas une mince affaire. C'est si grave que Paul emploie un gros mot. Satan, livré à Satan. C'est un peu comme lorsqu'une famille est réunie autour d'un repas et que les parents doivent renvoyer de la table un de leurs enfants à cause de son comportement. Vous voyez, si vous êtes parent, ça vous est peut-être déjà arrivé. Mon loulou, ça fait 3 fois qu'on te demande d'arrêter de renverser l'assiette de ta sœur, maintenant tu quittes la table et tu vas te coucher sans manger. excommuniés. Cette expérience est douloureuse aussi bien pour l'enfant que pour la famille, mais elle est également bénéfique, aussi bien pour l'enfant que pour la famille. Étant privé de bonne nourriture, l'enfant est, pour ainsi dire, livré à la faim. Il est livré à la faim, pour ainsi dire, au point peut-être de lui faire mesurer la chance qu'il avait d'être assis à la table de ses parents, avec ses frères et sœurs. La famille, quant à elle, peut savourer son repas dans le calme et la sérénité, mais en espérant quand même que l'enfant prendra conscience de son comportement et qu'il retrouvera sa place à table le lendemain. Vous comprenez bien quel est le but bienveillant de l'excommunication. En excluant Hyménée et Alexandre de l'Église, Paul les a livrés à la faim spirituelle. Il les a privés des moyens de grâce que sont le culte, la prédication de la parole, les sacrements et la communion fraternelle. Paul les a privés de ces choses, il les a exclus, il les a livrés à la faim spirituelle. Le but, c'est qu'ils mesurent la chance qu'ils avaient d'être assis à la même table que Timothée et les autres membres fidèles de l'Église d'Éphèse. Et cette démarche sert aussi d'exemple, d'ailleurs, aux autres membres de l'Église, afin de leur inspirer de la crainte et qu'ils mesurent eux aussi le fait qu'être un chrétien, c'est quelque chose de sérieux. C'est plus sérieux qu'on le pense. Le christianisme est exigeant. C'est ce que ce texte veut nous faire comprendre à notre tour cet après-midi. Alors, comment réagiriez-vous, ou réagirez-vous, comment réagirez-vous le jour où je vous annoncerai que le Conseil des Anciens a décidé de radier M. Dupont de l'Église parce qu'il persiste à se dire chrétien et à vouloir participer à la Sainte-Cène tout en vivant avec sa petite amie sans être marié avec elle? Comment vous réagirez ce jour-là? Parce que ça arrivera, hein. Il ne s'appellera peut-être pas M. Dupont. Comment vous réagirez le jour où je vous annoncerai que le Conseil des Anciens a décidé d'exclure de nos réunions Madame Durand jusqu'à ce qu'elle demande publiquement pardon aux membres de l'Assemblée d'avoir fait courir des bruits désobligeants au sujet d'une sœur en Christ? Comment réagirez-vous? Comment réagirez-vous le jour où je vous annoncerai que le Conseil des Anciens a décidé d'excommunier M. Martin parce qu'il persiste à enseigner dans l'Église que Jésus est ressuscité allégoriquement et non pas physiquement? Comment réagirez-vous? Le christianisme est exigeant, non pas au sens de ce qu'il faut faire pour devenir chrétien, mais au sens de ce que la foi est censée produire chez le croyant. J'espère que vous voyez ce soir pourquoi on peut dire, d'après ce texte, qu'être un chrétien, c'est plus sérieux qu'on le pense. Être un chrétien, c'est plus sérieux qu'on le pense. C'est plus sérieux qu'on le pense parce que le christianisme, premier point, est conflictuel. Deuxième point, il est strict. Troisième point, il est exigeant. Vous voyez qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi derrière l'étiquette « disciple de Jésus ». Comme si l'adjectif chrétien pouvait admettre toutes sortes de croyances et de comportements. La foi chrétienne, c'est grave. La foi chrétienne, c'est du sérieux. C'est grave sérieux, comme on dit dans la rue. La foi chrétienne, c'est grave sérieux. Mais plus sérieusement, quel est votre christianisme ce soir? Ou quelle est l'idée que vous vous faites du christianisme? Si vous êtes un chrétien ce soir, ce texte vous invite à prendre la mesure de votre vocation. C'est du lourd. C'est un combat. C'est un voyage où le risque du naufrage est bien réel. Assurez-vous donc que l'objet de votre foi est conforme à la Bible et que le fruit de votre foi l'est aussi. Assurez-vous que l'objet de votre foi est conforme à la Bible et que le fruit de votre foi l'est aussi. Si vous n'êtes pas un chrétien ce soir, ce texte vous invite, quant à vous, à prendre la mesure de l'invitation qui vous est adressée aujourd'hui à le devenir, à devenir chrétien. La foi chrétienne, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Vous savez, si vous vous posez des questions pour savoir si vous allez devenir un chrétien ou pas, je préfère vous dire tout de suite que Jésus ne vous promet pas la vie en rose, si vous lui remettez votre vie. Jésus ne vous promet pas la réalisation de tous vos souhaits personnels, si vous lui remettez votre vie, pas du tout. Mais ce qu'il vous promet, c'est ce qu'il vous promet et ce que vous pouvez recevoir gratuitement en plaçant simplement votre confiance en lui, c'est le pardon de toutes vos fautes. L'assurance de vivre éternellement avec lui. Et le déploiement dans votre vie de son autorité bienveillante. Amen. Je vous invite.